Vous écoutez France Culture. Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Sciences Publiques, Michel Albert Gonti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Nous retrouvons aujourd'hui l'émission mensuelle de Sciences Publiques réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Faut-il et peut-on se débarrasser des cauchemars ? Pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves, écrivait Alfred de Musset dans Lorenzatio. Peut-être pensait-il alors aux cauchemars. Sa phrase illustre en effet un phénomène qui nous touche pratiquement tous et qui reste très mystérieux. En effet, si les rêves sont largement étudiés, leur côté obscur, lui, a longtemps échappé à la compréhension des chercheurs. Il a ainsi fallu attendre le milieu des années 2000 pour que un premier modèle précis du fonctionnement des cauchemars soit élaboré par Tore Nielsen, psychologue à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. Pour lui, les cauchemars naissent dans l'hippocampe, le siège de la mémoire contextuelle dans notre cerveau. Il se poursuit dans l'amygdale, où se situe la mémoire de la peur, avant de mobiliser le cortex préfrontal médian, capable d'analyser le cauchemar, d'inhiber la peur qu'il suscite et de le transformer en souvenir tolérable. Mais si le cortex préfrontal échoue, le cortex singulaire antérieur se réactive alors et le dormeur se réveille brutalement, terrorisé et paniqué. Suivant ce scénario, il existerait donc de bons et de mauvais cauchemars. Les premiers nous serviraient à traiter nos souvenirs de peur et à les neutraliser. Les mauvais résulteraient de l'échec de ce processus avec des conséquences pénibles et qui peuvent devenir douloureuses si la fréquence de tels cauchemars est importante. Cela se produit assez souvent après des événements traumatisants de la vie éveillée, comme les guerres ou les catastrophes. D'où l'importance des travaux visant à soigner les personnes victimes de cauchemars à répétition. Une méthode psychologique, l'IRT, dont nous allons parler, donne des résultats prometteurs dans ce domaine. Comment un rêve peut-il se transformer en mauvais rêve ou en cauchemar ? Quel rôle positif peuvent jouer les cauchemars en matière de traitement de la mémoire de nos peurs ? Pourquoi deviennent-ils parfois pathologiques lorsque, par exemple, ils conduisent à l'insomnie chronique ? Quelles méthodes permettent alors de s'en délivrer ? Peut-on contrôler les cauchemars pour conserver les bons et se protéger contre les mauvais ? Pour répondre à ces questions qui nous concernent tous à différents degrés, nous recevons aujourd'hui dans cette émission de Sciences Publiques enregistrée le 20 juin 2014 dans le studio 108 de la Maison de la Radio, Benjamin Putois, docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien et enseignant à l'université à distance suisse, Perrine Ruby, chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et professeur à l'université de Swansea, et Roger Ripper, diplômé en psychopathologie et cofondateur de l'association Oniros, association française pour l'étude des rêves, et auteur du livre intitulé « La résolution des cauchemars » paru en 2012 aux éditions Oniros. Et nous sommes également avec François Lassagne, rédacteur en chef adjoint de Science et Vie, notre partenaire pour cette émission, Science et Vie qui publie dans son numéro de juillet une enquête intitulée « La science des cauchemars, d'où ils viennent, ce qu'ils disent de nous ». Et je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. François Lassagne, bonjour.
Bonjour.
Question traditionnelle en ce début d'émission en partenariat avec Science et Vie. Pourquoi avez-vous choisi de consacrer le dossier de votre numéro de juillet au cauchemar, un sujet surprenant peut-être surtout à la veille des vacances ?
Eh bien, tout simplement parce que les cauchemars nous sont apparus comme à la fois un objet très rare d'études scientifiques et un phénomène absolument répandu. Il y a 98% des adultes qui déclarent avoir fait un cauchemar au moins une fois dans leur vie. 85% des adultes disent en avoir fait un ou plusieurs dans l'année écoulée. Donc c'est extrêmement commun est paradoxalement très peu étudié. Le sommeil est abondamment étudié. Il y a beaucoup de laboratoires du sommeil qui essayent de comprendre comment aider les gens à mieux dormir, avoir un sommeil plus réparateur, savoir s'endormir à l'heure que l'on souhaite, se réveiller en forme. Ce sont des besoins absolument essentiels, donc il est normal que des chercheurs travaillent sur ces points-là. Néanmoins, le cauchemar était un peu le parent pauvre, un peu caché derrière les études sur le sommeil. Sauf que, il y a deux laboratoires dans le monde qui sont consacrés exclusivement à l'étude des cauchemars, et notamment un, celui de l'Université de Montréal, dirigé par Tore Nielsen, que vous avez évoqué, qui a, il y a quelques années, esquissé un modèle neurophysiologique et comportemental des cauchemars, qui est, dans la communauté des spécialistes du sommeil, le plus clair, le plus complet qui ait jamais été construit et qui aujourd'hui, en 2014, fait son chemin et est reconnu comme le meilleur dont on dispose. Et ce modèle a quelque chose de fascinant, et c'est pour ça qu'on a eu très envie d'en parler, c'est qu'il montre que non seulement le cauchemar est commun, bien sûr, mais qu'en fait, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas le signe de quelque chose qui irait mal et dont on aurait la trace nocturne. Si quelque chose se passe mal dans la vie, le cauchemar est souvent vu comme une trace négative qui se passe pendant le sommeil. Et en fait, non. Il s'avère que le cauchemar, dans le modèle de Tore Nielsen, et l'observation des dormeurs montre qu'il est vrai, c'est que le cauchemar sert à apprivoiser nos peurs, à dompter ces terreurs diurnes pendant la nuit. Donc le cauchemar, en fait, nous rend un service. À ceci près que quand il échoue, parce que cette fonction-là n'est pas parfaite, quand il échoue, on se réveille et alors là, malheureusement, on reste avec les peurs qu'on a eues pendant la journée et le cauchemar n'a pas fait son travail.
Alors, on va revenir, bien sûr, en détail sur ce modèle et sur le fonctionnement donc, qu'il révèle chez les cauchemars. Benjamin Putois, bonjour.
Bonjour.
En fait, vous êtes en duplex avec nous depuis le studio de Radio France à Lyon. Et le dossier de Sensevi s'appuie essentiellement sur les travaux donc, de chercheurs comme Tore Nielsen, que François Lassane vient de rappeler, ou Antonio Zadra, qui travaille au Canada. Il révèle aussi que les cauchemars sont donc très peu étudiés jusqu'à présent, comme l'a dit François Lassane. Pourquoi une telle désaffection, on peut dire, des chercheurs pour ce sujet ?
Moi, je pourrais répondre à cette question. Mais
Perrine Ruby, alors. Bon. Ouais, c'est Perrine Ruby qui prend le relais. Perrine Ruby est également en duplex avec nous depuis Lyon. Donc, allez-y. Pourquoi donc ce manque de travaux dans ce domaine ?
Ben, disons que le cauchemar, c'est un rêve particulier. Ça appartient à la grande catégorie de ce qu'on appelle les rêves. Et c'est les rêves, en général, qui sont très peu étudiés. Effectivement, le sommeil a été très largement étudié, et l'est encore. Mais les rêves le sont beaucoup moins pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un objet qui se prête extrêmement mal à l'expérimentation scientifique parce qu'on a du mal à le localiser au cours du sommeil, qu'il n'est pas contrôlable. On ne peut pas demander à quelqu'un de rêver ou de faire un cauchemar. Du coup, dans ces conditions-là, c'est vraiment très difficile d'avoir des mesures contrôlées. C'est la principale raison qui explique le manque d'études à ce sujet-là. Et donc, comme le cauchemar, c'est une petite sous-partie du rêve en plus, c'est vraiment quelque chose et qui est encore plus rare que le rêve. Donc, c'est ça qui explique le peu d'études en neurosciences et en psychologie expérimentale en général.
Notre troisième invité, c'est Roger Ripper. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes avec nous par téléphone depuis un petit hameau de la Nièvre qui s'appelle Chitry-Mont-Sabot, car vous vous intéressez aux rêves depuis 1985, année où vous avez créé votre association Oniros. Alors en matière de cauchemar, vous êtes particulièrement penché sur les travaux du psychiatre américain Ernest Hartmann, qui dans les années 1990 a classé les cauchemars dans quatre catégories.
Oui, c'était le point de départ donc, de l'ouvrage que j'ai publié sur la résolution des cauchemars. Mais je voudrais avant revenir sur ce qui a été dit au sujet donc, de l'état de rêve. Je ne pense pas que ce soit Michel Jouvet donc, qui ait découvert cet état, parce que sa découverte date de 1953 par les chercheurs américains Azirensky et Kletman. Et bon... Donc, d'ailleurs, à noter la contradiction entre le sommeil profond et l'intense activité mentale de cet état, qui a été l'origine du terme donc, qui a été forgé par Michel Jouvet, de sommeil paradoxal. Et c'est une appellation que je ne partage pas, que soit dit en passant, car elle a pour inconvénient de gommer les rêves, les contenus oniriques, dont justement on parlait le peu de recherches qui ont été effectuées à ce sujet en France. Parce que ces contenus oniriques constituent pourtant la caractéristique principale de cet état de vigilance. Alors de nos jours, malheureusement, c'est un état encore dénigré. Et il n'y a pas encore si longtemps, j'ai adressé une lettre donc au sujet des qualifications sur Internet par l'INSV, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, qui donc cet institut qualifie les rêves de résidus sans cohérence. Et donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'inacceptable. Parce qu'à partir du moment où on n'accorde pas d'importance à l'état de rêve et à ses contenus, il n'est pas possible effectivement d'avancer dans la recherche.
Alors ce qui est intéressant, François Lassalle, c'est que justement dans ce désert un peu de travaux, de recherche dans ce domaine, ce chercheur, Tore Nielsen, a réussi à créer un modèle de fonctionnement des cauchemars qui s'appuie sur ce que l'on connaît aujourd'hui des différentes fonctions, des différentes zones du cerveau.
Exactement. C'est un modèle qui... Malheureusement, comme ça a été dit par Perrine Ruby, ne profite pas de l'imagerie cérébrale. On pourrait imaginer que si l'on en sait autant sur ce que fait le cerveau pendant un cauchemar, c'est parce qu'on a équipé des dormeurs faisant des cauchemars de casques permettant de voir ce que fait leur cerveau. Ça n'est pas le cas. Il est très difficile de faire cauchemarder, de faire rêver un individu dans un laboratoire.
Même ceux qui ont beaucoup de cauchemars, en fait, n'en ont plus dès lors qu'ils sont dans un environnement différent.
Exactement. Ça arrive, mais c'est très très rare. Donc pour avoir une solidité statistique d'études scientifiques sur le thème, eh bien, il faut conduire énormément d'études, donc c'est difficile. Néanmoins, alors ce qu'a fait Tore Nielsen, c'est que d'une certaine manière, il a contourné le problème en s'appuyant à la fois sur ce que l'on connaissait du fonctionnement cérébral du côté des émotions et de la mémoire, et sur ces points-là, les connaissances sont nombreuses et solides, parce qu'on a des études chez l'humain et chez d'autres mammifères. Et aussi, et c'est essentiel, il s'est appuyé sur un corpus qui est désormais florissant de récits de rêves et de cauchemars. On cite dans le dossier de Science et Vie les travaux d'Antonio Zadra à l'Université de Montréal, qui a répertorié 10 000 récits de rêves faisant raconter à des dormeurs leurs cauchemars au sein de rêves pendant une dizaine d'années. Et là, considérer les rêves de à peu près 550 personnes. Alors ça permet indirectement de savoir à quel moment un rêve devient un cauchemar, c'est-à-dire que ça devient désagréable, il se passe des événements perturbants qui parfois réveillent. Si c'est le cas, le cauchemar, d'après le modèle de Tore Nielsen, a échoué à traiter les peurs. Et dans ce cas-là, le dormeur s'en souvient parce qu'il fait son cauchemar et ça le réveille. Donc il a une bonne mémoire de ce qui s'est passé. Malheureusement, le cauchemar est inopérant, il ne fait pas son travail. Et parfois, le cauchemar fait son travail juste avant le réveil. Et là, c'est une grande chance pour les chercheurs parce qu'ils peuvent avoir un témoignage du dormeur qui va dire « Je me souviens quand même, je n'ai pas été réveillé par la panique parce que finalement, mon cauchemar s'est bien terminé. Donc le cauchemar a fait son travail, on y reviendra peut-être. Mais je peux en témoigner puisqu'il est arrivé juste avant que je me réveille. »
Alors oui, il faut préciser que dans cette étude, sur 10 000 récits de rêves, il n'y avait que 430 mauvais rêves et 250 cauchemars, ce qui est quand même une proportion faible et qui explique la difficulté peut-être à étudier ce matériau. Perrine Ruby, quel est votre avis, vous, sur ce modèle de fonctionnement des cauchemars établi par Tore Nielsen ?
Mais je suis tout à fait d'accord qu'il est tout à fait bien inspiré par rapport à ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau actuellement, ce qu'il propose est tout à fait cohérent. Après, on revient toujours au même problème. Donc, c'est un modèle très intéressant, mais pour aller plus loin, il faudrait pouvoir le tester. Et pour pouvoir le tester, il faudrait enregistrer l'activité du cerveau pendant un cauchemar. Et comme on l'a dit tout à l'heure, non seulement les cauchemars arrivent rarement dans les laboratoires, mais cibler le moment du cauchemar pour enregistrer l'activité cérébrale, ça, c'est encore plus difficile. Donc, on a vraiment un problème méthodologique là qui pourra être résolu peut-être dans le futur grâce à de nouvelles techniques de neuroimagerie ou alors si on a la chance de trouver un marqueur neurophysiologique du rêve et des cauchemars, dans ces cas-là, on pourra avancer. Mais pour l'instant, effectivement, on en est à l'étape du modèle, et le modèle de Torrey-Nielsen est très intéressant.
Donc, on a quand même quelques...
Oui, Benjamin, plutôt.
Je voudrais prendre la parole et de rebondir, d'accompagner, je dirais plutôt, le discours de Dr Ruby. On a quand même des bons indicateurs sur les mécanismes qu'il y a derrière le processus de cauchemar. Dans le sens où, si l'on prend l'activité onirique des personnes qui souffrent d'états de stress post-traumatique, on sait que dans cette pathologie-là, comme vous l'avez mentionné en introduction, suite à des événements terribles qui portent atteinte à l'intégrité de notre vie, comme des viols, des accidents, des guerres, eh bien, certaines personnes, malheureusement, développent ces états de stress post-traumatique. Ce sont des états de stress qui vont perdurer après ces expositions-là. Et il s'avère que le cauchemar est le symptôme le plus fréquent. Le plus fréquent, et c'est là où on peut parler, je dirais, d'horreur de la situation, où imaginez, après avoir vécu un accident, eh bien, c'est déjà suffisamment difficile dans la vie d'avoir rencontré cet événement-là, terrible, eh bien, les personnes vont le revivre pratiquement, souvent quotidiennement, toutes les semaines, au cours de leur sommeil, hein, au cours de leur cauchemar. Alors, les études montrent que les personnes qui souffrent d'états de stress post-traumatique, eh bien, ont un tonus musculaire, ont une activité végétative, neurovégétative. En gros, ils ont un corps qui est beaucoup plus tonique, beaucoup plus en activité au cours du sommeil paradoxal que les personnes qui ne souffrent pas de cette pathologie-là.
D'accord. On va revenir. Alors, sur... Oui, pour, je vous en prie.
Pour finir, à travers cet élément, eh bien, on sait que dans le sommeil paradoxal, eh bien, Michel Jouvet l'a qualifié, et je pense que c'est important de le dire aux auditeurs, l'a qualifié de paradoxal puisque nous avons une forte activité cérébrale qui est corrélée dans un corps qui est pratiquement inerte, qui est pratiquement mou. En d'autres termes, eh bien, vous avez un corps qui est très calme et vous avez une tête, eh bien, qui tourne à 100 à l'heure. Et ce contraste, eh bien, permettrait de réguler nos émotions, de revoir des films tout en étant serein et calme dans notre corps. Et à travers la lecture pathologique qu'on peut avoir des états de stress post-traumatique, eh bien, l'arrivée, l'événement, la récurrence des cauchemars, eh bien, s'expliquerait par le fait que ce calme, cette sérénité corporelle n'existe pas ou peu, en tout cas de manière moins intense, et qui ferait que le processus onirique normal, la fonction régulatrice émotionnelle des rêves, ne se mettrait pas en place. Donc, à travers de telles lectures, eh bien, on a des bonnes indications, des bons indicateurs pour comprendre les mécanismes sous-jacents à l'activité cauchemardesque.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture et nous débattons aujourd'hui autour de la question « Faut-il et peut-on se débarrasser des cauchemars ?» avec nos invités Benjamin Putois, docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien, Perrine Ruby, chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et Roger Ripper, diplômé en psychopathologie et cofondateur de l'association Oniros. Et nous sommes également avec François Lassagne, rédacteur en chef adjoint de Science et Vie. Alors Roger Ripper, c'est ce que vient de nous expliquer Benjamin Putois et peut-être en lien avec un phénomène particulier que le chercheur que vous avez étudié, Ernest Arnman, avait décrit dans les années 1990 et qui est une des quatre catégories de cauchemars qui se traduit par une paralysie du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, donc pour revenir à Ernest Arnman, donc qui est chercheur spécialiste des cauchemars, donc qui est malheureusement décédé donc l'année passée et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Boston et auquel d'ailleurs je tiens à rendre hommage. Donc ce chercheur pour y voir clair dans le domaine des cauchemars a essayé de les classer donc en quatre grandes catégories. Et je crois que c'est important effectivement de bien distinguer ces différentes catégories de cauchemars parce qu'elles demandent des réponses appropriées pour chacune d'elles. Alors ces quatre catégories sont D'abord les vrais cauchemars, qui sont les cauchemars les plus fréquents. Ensuite les terreurs nocturnes, la paralysie du sommeil, donc justement dont je vais parler, et ensuite le stress post-traumatique ou les cauchemars post-traumatiques, donc qui naissent suite à différents traumatismes. Alors pour en venir donc à la paralysie du sommeil, donc qui est un phénomène qui est assez courant, mais pas très connu. J'en ai moi-même fait l'expérience une fois dans ma vie. Alors c'est donc pour distinguer ces cauchemars, il faut les ramener au moment de leur survenue, c'est-à-dire à la phase de sommeil qui correspond à leur survenue. Et en ce qui concerne la paralysie du sommeil, c'est manifestement un passage raté de l'état de rêve à l'état de veille. La paralysie du sommeil, donc survenant plutôt en fin de nuit. Alors on parle de faux éveil, puisque le dormeur pense être réveillé alors que son corps est encore en partie endormi. C'est une expérience qui peut être effrayante, source de grande confusion, où des hallucinations vivaces se superposent à la perception réelle de l'environnement. Par exemple, une présence étrangère fera éruption dans la chambre à coucher du dormeur.
Très bien. Est-ce que Perrine Rubier, ou plutôt Benjamin Putois, puisque là il s'agit peut-être de cas cliniques, avait pu analyser ou rencontrer ce type de cauchemar?
Alors, dans la nosographie internationale des troubles du sommeil, on ne parle pas de cauchemar, mais comme M. Ripper le présente, on parle bel et bien de paralysie du sommeil, qui fait partie des parasomnies. Un parasomnie, c'est, on va dire, des événements entre guillemets anormaux qui arrivent au cours du sommeil. Et effectivement, c'est très très fréquent. Hein. Je crois que la prévalence, ça doit être 95% des adultes au cours de la vie expérimentent au moins une fois cette sensation qui est très, très désagréable et dans les cas les pires, eh bien, peut fortement inquiéter les personnes. Il s'avère que ça reste une parasomnie, on pourrait qualifier de non pathologique. Alors, avec des guillemets, puisque on peut avoir dans certaines pathologies telles que la narcolepsie, cataplexie ou les démences de type Parkinson, une recrudescence de ce type de parasomnie, hein, de paralysie du sommeil. Mais quoi qu'il en soit, de manière globale, n'incontons pas nos auditeurs, c'est quelque chose de banal et fréquent.
Donc on est paralysé et en fait on a l'impression d'être éveillé alors qu'on continue à dormir. C'est assez un état effectivement assez spectaculaire, où j'imagine qui crée un fort malaise.
Alors, d'autant plus spectaculaire que, comme l'a mentionné M. Ripper, il s'accompagne souvent d'hallucinations hypnopompiques. Mmh. Hein, d'hallucinations, c'est comme si on continuait de rêver, mais on prendrait bien conscience de la présence de notre corps dans notre chambre, dans notre pièce, tout en étant incapable de bouger, étant donné que notre corps serait totalement inerte. Alors, c'est un effet qui est transitoire, hein, qui dure de l'ordre de la seconde jusqu'à une dizaine de secondes. Hein. Ça ne dure pas des minutes et des minutes.
Non, mais ça peut peut-être paraître assez long pour celui qui le subit.
Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est comme entendre crier un enfant, son propre enfant, durant son sommeil. Une minute paraît des heures, bien
voilà,
sûr.
Voilà, c'est ça. Alors, ce que je voudrais le point sur lequel peut-être on peut se concentrer une seconde, c'est la question de cet échec des cauchemars dont parlait François Lassagne. Pourquoi certains cauchemars réussissent et déjà, c'est une grande nouvelle que les... Le côté positif que peut apporter un cauchemar à nos souvenirs, en les nettoyant d'une certaine façon, en les atténuant, en les rendant moins traumatisants. Et en revanche, cet échec qui peut survenir et qui nous conduit à nous réveiller dans un état qui, s'il est peut-être un peu moins gênant que celui de la paralysie du sommeil, peut quand même être très inconfortable. Alors, qui peut nous préciser cette différence et ce qu'on peut en dire aujourd'hui?
Je fais juste une petite parenthèse de bien faire la différence entre terreur nocturne et cauchemar. Les cauchemars arrivent essentiellement en sommeil paradoxal, c'est-à-dire en plus grande prévalence, plus grande fréquence en fin de nuit, alors que la terreur nocturne est une parasomnie du sommeil lent profond qui est plus concentrée au début de nuit. Et il s'avère que ce sont deux parasomnies qui sont radicalement différentes et on ne va pas prendre en charge la terreur nocturne de la même manière qu'un cauchemar. Hein. Donc ça, ce distinguo est très important à faire.
Très bien. Alors, pour ce qui est... Oui, vous vouliez intervenir, Roger Ripert ?
Oui, justement, c'est ce que j'allais aussi présenter. Mais ce que l'on peut dire par rapport aux terreurs nocturnes, c'est que c'est un peu l'inverse de la paralysie du sommeil. C'est le corps, cette fois-ci, qui est éveillé en partie, alors que l'esprit est profondément endormi. Donc il y a une sorte de correspondance entre terreur nocturne et paralysie du sommeil, sauf que, effectivement, ces deux types de cauchemars surviennent vraiment dans deux périodes de sommeil deux périodes de sommeil différentes. Les terreurs nocturnes, donc, durent à la sortie du sommeil profond, alors que la paralysie du sommeil survient en fin de rêve.
Très bien. Oui, alors Benjamin Putois, pour revenir à cette différence entre les cauchemars réussis et les cauchemars qui échouent.
Alors, la différence est déjà de l'ordre du temps qui s'écoule. Quand on vit des événements difficiles dans notre vie ou quand on est enfant, entre, on va dire, 5 et 8 ans, où les cauchemars sont particulièrement fréquents et qu'on vit des changements, des adaptations scolaires, des déménagements, le divorce de ses parents, eh bien, l'expression du cauchemar est essentielle puisqu'elle permet... ou elle permettrait de réguler nos émotions, de pouvoir digérer tous les affects qui ont été activés pendant la journée pour pouvoir mieux s'y adapter, en quelque sorte. Donc, le rêve et, à travers le cauchemar, sont essentiels pour notre santé mentale.
C'est une forme de psychothérapie, c'est une forme de psychothérapie qui se produit donc, dans le cerveau à ce moment-là.
C'est un moyen, d'ailleurs, que Freud avait très bien décrit à l'époque, qui permet d'une part de pas tant protéger notre sommeil, mais qui permettrait de réguler nos états internes, hein, et surtout nos états qu'on qualifie aujourd'hui d'émotionnels. Alors, pour faire la différence entre, on va dire, un bon cauchemar ou un mauvais cauchemar, le mauvais cauchemar est un cauchemar qui va perdurer dans le temps, même s'il change de forme, de scénario, eh bien, c'est le poids de la répétition qui amène eh bien, beaucoup de souffrance, qui va nuire à la qualité de la veille de la personne, puisqu'elle va se réveiller avec un mal-être, avec un stress qui va perdurer souvent toute la journée. Et ces cauchemars eh bien, vont engendrer dans le temps une appréhension tout à fait normale, mais ô combien anxiogène, de l'appréhension de bah, « je vais aller dormir, je vais refaire des cauchemars, je n'ai pas envie d'aller me coucher ». Et là, pointe du nez, les insomnies secondaires. Donc on a dans le cauchemar pathologique un trio qui s'auto-entretient, pourrions-nous dire, entre le cauchemar, ses conséquences sur notre humeur diurne et l'arrivée d'insomnie.
Alors, est-ce qu'on peut dire que un bon cauchemar est un cauchemar qui ne réveille pas parce que d'après ce que François Lassagne nous a expliqué tout à l'heure, il semblerait que l'échec soit patent lorsque on se réveille en état de cauchemar et que donc le travail ne s'est pas finalisé correctement. Est-ce que c'est le cas, Benjamin Putois ou Roger Ripert, qui veut répondre?
Oui, moi je peux répondre.
Roger Ripert.
C'est vrai qu'il faut faire la distinction entre les rêves cauchemardesques et les cauchemars, de la mesure où les cauchemars entraînent un réveil. Et c'est ça qui est perturbant pour le sommeil et qui est aussi l'indication d'un conflit profond qui se trouve en situation d'impasse. C'est-à-dire que là, le dormeur, finalement, n'arrive pas à résoudre le conflit sous-jacent à son cauchemar et il se réveille. Donc les rêves cauchemardesques sont très fréquents parce que le cauchemar, il est comme dans la vie. Il est omniprésent, c'est-à-dire qu'on est toujours confronté à des problématiques qui sont plus ou moins difficiles à résoudre. Mais quand on arrive quand on arrive au cauchemar, au vrai cauchemar, c'est vraiment le signe que là, donc, on est dans une situation d'échec.
François Lassagne,
par rapport à sa résolution.
François Lassagne, ça recoupe.
Ça rejoint tout à fait ce que présente le modèle de Tore Nielsen, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une forme d'échec de la fonction naturelle du cauchemar qui est d'atténuer les peurs vécues dans la journée et de se les approprier. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est une des raisons des recherches encore débutantes sur les cauchemars, mais c'est une de leurs raisons d'être, c'est qu'il est possible aujourd'hui d'aider pendant la journée, avec un thérapeute, un dormeur pour lequel le cauchemar ne fait pas son travail. Il est possible aujourd'hui de l'aider à remplacer pendant la journée chez le thérapeute le travail nocturne qu'aurait dû faire le cauchemar. C'est ce qu'on présente dans notre dossier, c'est la fameuse thérapie par répétition de l'imagerie mentale. En gros, on aide le dormeur qui a fait des cauchemars pathologiques, en tout cas pénibles, à se réapproprier ses souvenirs à charger en émotions négatives pour les atténuer, les adoucir et les rendre acceptables. Et d'une certaine manière, il s'agit pendant la journée de réécrire le cauchemar pour qu'il devienne un cauchemar utile, au même titre qu'il l'aurait été pendant la nuit si tout s'était bien passé. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à la psychanalyse qui, d'une certaine manière, faisait un peu ce travail, mais pendant des années, les résultats aujourd'hui publiés et sur lesquels on s'appuie pour publier notre dossier, notamment ceux des Canadiens, l'Université de Montréal et d'Ottawa, c'est que il faut à peu près 2 à 3 semaines pour un adulte pour faire ce travail raté du cauchemar et le refaire dormir normalement et l'aider à se réapproprier ses peurs. On compare ça avec les années de psychanalyse parfois nécessaires pour ceux qui suivent une thérapie. Il y a un intérêt réel.
Et avec un taux de réussite que vous citez qui est très important.
Celui, en tout cas cité par Joseph de Koenig, qui est un des utilisateurs de cette thérapie par répétition de l'imagerie mentale, lui affirme que l'on peut atteindre 80% de réussite, hein, ce qui est extraordinaire.
Oui. Alors tout à fait, à ce propos, là, je rebondis sur
Benjamin Putois.
Sur votre description. Cette technique d'IRT, hein, Imagery Reassault Therapy en anglais, a été testée chez des milliers de personnes qui souffrent de cauchemars qu'on dit idiopathiques, hein, donc sans origine, on va dire traumatisante, apparente en tout cas, et chez des personnes qui souffrent d'états de stress post-traumatique. Donc des milliers de personnes ont profité de cette thérapie et il s'avère que les résultats sont de très bonne qualité, puisque cette technique, qu'on pourra décrire par la suite, eh bien, réduit d'une part la fréquence des cauchemars. Donc les personnes font des cauchemars de moins en moins souvent. Quand ils en font, eh bien, la teneur émotionnelle, l'anxiété est nettement amoindrie. Et cette technique permet d'améliorer le sommeil des personnes, de réduire à l'état quasi nul les insomnies secondaires. Et on va encore plus loin avec cette technique-là, puisque même si on ne cherche pas directement un travail sur un potentiel traumatisme, on travaille uniquement sur le sommeil et les cauchemars, eh bien cette technique permet de réduire l'ensemble des symptômes des personnes qui souffrent de ces états de stress post-traumatique. À tel point que cette technique qui est validée empiriquement est recommandée par l'Académie américaine de médecine du sommeil. Hein, donc c'est le traitement non médicamenteux qui a le niveau de preuve le plus important.
Alors je voudrais revenir sur une distinction que faisait Roger Ripper tout à l'heure pour bien comprendre. C'est-à-dire que les cauchemars, quand on utilise ce terme, seraient donc les cauchemars ratés. C'est-à-dire ceux qui ont réussi d'une certaine façon, soit on ne s'en souvient pas parce que ça rentre dans la catégorie des rêves qui ne laisse pas forcément une trace dans la mémoire, ou bien on s'en souvient, mais on n'est pas réveillé par ses rêves. Comment bien distinguer ces différentes catégories ?
Une fois de plus, je pense qu'on peut répondre par la fréquence des rêves. Quand la fréquence des rêves et des cauchemars et du moment du cauchemar, à partir du moment où il va trop persister par rapport à un événement traumatisant. Quand vous vivez un événement difficile, un accident, un viol, une agression, eh bien le cauchemar, on l'a dit, va être très salvateur pour la santé mentale des personnes. C'est au moment où on dépasse entre 3 et 6 mois, si le cauchemar persiste dans le temps, alors on a un bon indicateur que son travail n'est pas effectif. Et là, il sera opportun d'aider les personnes avec, par exemple, cette technique d'IRT pour pouvoir eh bien, redémarrer la machine du rêve. Avant ce délai-là, eh bien, on sait que toute intervention psychologique va reconsolider la mémoire des traumatismes et va être complètement délétère.
Est-ce que ça veut dire qu'en permanence, donc, nous traitons nos peurs de cette façon, de façon inconsciente, par ce mécanisme du cauchemar réussi, c'est-à-dire du cauchemar qui a cet effet quasi psychothérapeutique? Oui, Périne Rubi.
Je trouve que c'est intéressant, ces notions de cauchemar échoué ou cauchemar réussi. En fait, pour pouvoir vraiment le dire, il faudrait pouvoir avoir des indicateurs objectifs, c'est-à-dire pouvoir voir s'il y a une meilleure résolution, un meilleur état émotionnel de quelqu'un lorsqu'il se réveille en sursaut à la fin de son cauchemar, ou lorsqu'il s'est pas réveillé, il n'a pas été réveillé par son cauchemar. Avant d'avoir fait ce genre d'études, c'est difficile de savoir s'il y en a un qui est plus favorable que l'autre. Donc, je trouve que la réponse de Benjamin est tout à fait adéquate. Ce qui est vraiment important, c'est le fait que le cauchemar se répète et qu'il devienne gênant. Ça, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Parce que, en fait, au-delà du cauchemar, je pense que c'est bien le rêve qui... Il y a des auteurs qui font l'hypothèse que c'est le rêve en général, en fait, qui joue un rôle de régulation émotionnelle. C'est-à-dire, c'est le... Indépendamment de la valeur émotionnelle du rêve dont on peut se souvenir le matin au réveil, il y a notamment une étude qui a été faite par une Américaine en 91 qui s'est intéressée à des gens qui venaient de divorcer et elle leur a demandé de raconter leur rêve, un rêve qui était proche du divorce. Et elle leur a demandé... Elle les a suivis et un an après, elle leur a demandé dans quel état émotionnel ils étaient, comment ils avaient géré cette épreuve. Et elle a constaté que ceux qui avaient rêvé du conjoint dont ils divorçaient au moment du divorce avaient un meilleur état émotionnel un an après. Et ces gens ne parlaient pas nécessairement de cauchemar. Ils avaient simplement rêvé de cette situation compliquée à ce moment-là. Et apparemment, le fait d'en rêver leur a permis de mieux gérer cette situation dans le long terme.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui de la question « Faut-il et peut-on se débarrasser des cauchemars ?» avec nos invités. Benjamin Putois, docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien, Périne Rubi, chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et Roger Ripper, diplômé en psychopathologie et cofondateur de l'association Oniros. Et nous sommes également avec François Lassagne, rédacteur en chef adjoint de Science et Vie. François Lassagne, justement, donc, une des choses qu'on apprend quand même dans ce dossier que vous publiez dans Science et Vie, c'est le côté extrêmement positif, j'allais dire, les effets positifs, oui, de ce qu'on appelle les cauchemars, et dont je ne sais plus trop d'ailleurs s'il faut les appeler de cette façon, puisque quand ils réussissent, on n'en a pas forcément la mémoire ou le témoignage même, comme nous l'a expliqué Périne Rubi, il est très difficile d'avoir des éléments objectifs pour savoir qui rêve de quoi et quand, en fait. Donc, ce qui est quand même ce qui ressort d'important, c'est d'abord le fait que ces cauchemars ont un effet positif, et ensuite que l'on peut, dans les cas d'échec, avoir cette méthode dont on va reparler, la méthode IRT que vous avez mentionnée tout à l'heure. Mais déjà, c'est une révélation que de savoir que nos cauchemars, finalement, pour une part, sont bénéfiques.
C'est la grande surprise pour, j'imagine, la plupart des auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'il est difficile de distinguer exactement ce qui sépare un rêve réputé comme quelque chose de très agréable. Quand on dit c'est une vie de rêve, a priori c'est quelque chose d'agréable. Et le cauchemar qui est a priori très négatif, tout n'est pas tout à fait noir et blanc. Néanmoins, justement ce que disent les carnets de rêves et de cauchemars rapportés par les chercheurs qui suivent des dormeurs pendant des années, c'est que en observant les mots utilisés pour rapporter un rêve, le plus souvent, il est assez clair le moment où le rêve anodin, agréable ou neutre, se transforme en cauchemar, c'est-à-dire que le récit commence à utiliser un vocabulaire négatif où l'on voit très bien percer les émotions négatives. Elles sont plus ou moins intenses et effectivement, si elles sont peu intenses et que le cauchemar n'a pas réveillé le dormeur, a priori, il y a des chances qu'on soit dans le cas préférable où le cauchemar a fait son travail d'atténuation des peurs. Mais alors, je voudrais dire aussi que ces rêves ont un autre bénéfice intéressant, c'est que il montre ce dont sont faits les cauchemars. Chacun fait des cauchemars liés à son quotidien, à sa vie, à son passé, c'est évident. Néanmoins, si on étudie les cauchemars d'un très grand nombre de personnes, on s'aperçoit que certains thèmes sont plus représentés que d'autres. Ce qui vient en premier, c'est l'agression physique. C'est le rêve cauchemardesque où on est dans un parking la nuit ou dans une ruelle, ou peu importe où, et survient un agresseur et on tente de s'échapper, on n'y arrive pas. Éventuellement, on se réveille en sueur et en panique parce qu'on vient de recevoir un coup ou parce qu'on a très peur de le recevoir. Vient en position immédiatement suivante le conflit personnel. Donc ce que nous disait Perrine Ruby de ces personnes juste après un divorce, on est dans ce cas. Ce qui vient ensuite, c'est les sentiments d'échec, d'impuissance. Je ne peux rien faire. Je suis devant une situation qui demanderait que j'intervienne et je ne peux pas. Donc on présente cette liste-là jusqu'au plus petite fréquence de cauchemars dans Science et Vie. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit quelque chose aussi de la fonction du cauchemar. À quoi sert ce cauchemar utile ? De voir ce dont il est fait. Parce qu'il y a eu d'autres hypothèses posées sur à quoi servent les cauchemars avant le modèle de Tore Nilsson, dont une qui était assez répandue et qui considérait que le cauchemar, finalement, ne servait pas à grand-chose, était peut-être bien un fonctionnement par défaut du cerveau, une espèce de produit aberrant de notre vie nocturne. Simplement, il n'y avait pas grand-chose pour défendre cette idée-là.
C'est le mauvais rêve, quoi.
C'est un mauvais rêve, mais il est lié à pas grand-chose. C'est une aberration. Et d'ailleurs, certains chercheurs s'en servaient pour dire, ben, voilà qui justifie le fait qu'on ait des cauchemars absolument absurdes, parfaitement incohérent, a priori sans aucun lien avec notre vie. C'est donc que le cerveau improvise sans lien avec la réalité. Il y a eu une autre explication du rôle que pouvaient avoir les cauchemars qui disait, eh bien, c'est sans doute lié à notre passé d'il y a 20 ou 30 000 ans. Et sans doute, il y avait une fonction évolutive pour ces chasseurs-cueilleurs d'il y a 20 ou 30 000 ans. Sans doute, le cauchemar était une manière d'affronter des problème quotidien et très simple qui était je dois fuir, je dois me battre, je dois affronter un danger. Et c'était perçu, cette idée-là, comme une bonne explication de la fréquence des cauchemars d'agression physique, la fréquence des cauchemars où on se sent poursuivi. Sauf que, et c'est ce que dit Tore Nilsson, il est difficile de soutenir vraiment cette hypothèse parce qu'il y a plein de situations où aujourd'hui, les choses auxquelles on doit s'adapter au jour le jour sont très, très, très différentes de ce que devaient affronter nos ancêtres.
Alors, ce qui est remarquable, effectivement, c'est que dans la cartographie que vous avez fait des causes de cauchemars ou des thèmes de cauchemars qui reviennent, en fait, c'est la liste à peu près de toutes les choses qui nous font peur dans la vie réelle, dans la vie éveillée, hein, l'angoisse, échec, impuissance, poursuite, insectes aussi, que vous mentionnez, catastrophe, agression physique, etc., accident, conflit personnel, maladie et mort. Donc, on a fait un peu le tour de toutes les horreurs possibles que l'on peut rencontrer. Et ça, c'est quand même une révélation que le pouvoir du cerveau soit tel qu'il puisse traiter sans que nous en ayons vraiment conscience, sans que nous le cherchions vraiment, sans que nous ayons la moindre action sur lui, à résoudre ces peurs diurnes pendant la nuit. Ça vous paraît peut-être banal, Benjamin Putois et Perrine Ruby, mais pour nous qui découvrons ce genre de sujet, c'est quand même relativement extraordinaire.
En fait, il y a des thèmes typiques qui se retrouvent à travers les époques et à travers les cultures et qui ne sont pas que des thèmes négatifs. Il y a beaucoup de rêves positifs, donc des thèmes typiques de rêves positifs qu'on retrouve également. Donc, le moyen par lequel le rêve réussit à faire fonction de régulation émotionnelle, c'est vraisemblablement en réorganisant finalement les émotions qu'on a vécues pendant la journée, mais les positives comme les négatives, et en vraisemblablement en rattachant les choses aiguës qu'on a vécues récemment aux choses qu'on connaît. Du coup, ça aide à pouvoir les rattacher à un schéma de réaction qui serait adéquat. On peut faire cette hypothèse-là parce que sinon, on ne peut pas comprendre qu'on ait des rêves typiques qui soient négatifs, mais aussi positifs et qui soient très variés en contenu.
Est-ce qu'il y a des différences culturelles dans ce domaine ou est-ce que c'est pareil, quels que soient les cultures, les zones géographiques, l'histoire des pays concernés. Parce qu'on a ce genre d'observation sur différents pays.
Il y a quelques études qui ont été réalisées pour essayer d'évaluer l'effet culturel dans le contenu des rêves. Il y en a assez peu. Dans celles qui ont été réalisées, elles ont plutôt vu des points communs entre les cultures que des différences. En même temps, on sait qu'il y a un effet très important de la vie des personnes pour expliquer le contenu du rêve. C'est-à-dire qu'on a tendance à rêver des thèmes de notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'un sportif va plus rêver de sport, un musicien rêvera plus de musique. Si on a vécu quelque chose de désagréable dans la journée, on a plus de chances d'en rêver la nuit. Donc à partir de ce moment-là, forcément, un pays en guerre, si on fait une étude sur le contenu des rêves, on n'aura pas les mêmes contenus de rêves qu'un pays qui est en pleine prospérité et qui est dans un état de paix.
Voilà, donc ça se retrouve sur les soldats qui rentrent traumatisés d'un conflit et qui sont effectivement victimes de cauchemars.
C'est ça. Et donc la fréquence notamment de cauchemars dans la population a été augmentée par la guerre de 39-45 notamment. Ça a pu être mesuré grâce à une étude en Finlande sur, si je me souviens bien, 60 000 personnes dans ce pays-là qui ont été interrogées sur la fréquence de leurs cauchemars. Ils ont pu constater que les vétérans de la guerre de 39-45 avaient une fréquence de cauchemars qui était supérieure à la fréquence dans la population générale. Qui n'avaient pas vécu la guerre.
Roger Ripper, une réaction à ce que nous venons de dire ?
Oui, par rapport au cauchemar post-traumatique, je pense que au niveau du traitement, il y a sûrement à faire un travail de prévention. Un travail de prévention pour éviter de résoudre les conflits par la guerre et essayer de les résoudre par la négociation. Et ça, c'est ce qui est valable pour ces cauchemars post-traumatiques, c'est valable aussi pour les vrais cauchemars, c'est-à-dire qu'il s'agit de résoudre un conflit. Et si on arrive à résoudre notre conflit auquel nous renvoie le cauchemar, notre conflit d'ailleurs de l'état de veille, parce que bon, les rêves comme les cauchemars ne surgissent pas de nulle part, donc ils se rapportent à notre vécu de l'état de veille. Et donc là, vraiment, on pourrait faire un gros travail pour éviter ces cauchemars, éviter de les traiter, d'autant plus qu'ils sont très difficiles à traiter. Les traumatismes de guerre, comme les autres traumatismes, nécessitent une longue prise en charge thérapeutique. Donc là, on pourrait faire vraiment un travail de prévention, et malheureusement, l'homme n'arrive pas à se débarrasser de sa violence. Et là, on est en train de vivre un cauchemar lié à la guerre qui n'a pas de fin.
Oui, certes, mais toutes les catastrophes ne sont pas négociables à l'avance. Les tremblements de terre, par exemple, sont difficiles à négocier à la baisse. Benjamin Putois, je voudrais qu'on finisse cette émission en parlant quand même de cette méthode, en revenant sur cette méthode IRT, pour que vous nous expliquiez un petit peu comment... comme François Lassagne l'a cité tout à l'heure, comment on peut... finalement se débarrasser d'un cauchemar quand ça devient vraiment nécessaire, c'est-à-dire quand il revient régulièrement et quand il est particulièrement pénible et douloureux, voire provocateur d'insomnie.
Eh bien, écoutez, si vous me dites que vous souffrez de cauchemars récurrents, que vous en souffrez, que ces cauchemars engendrent des nuits blanches ou une crainte d'aller au lit, vous pensez souvent à vos cauchemars la journée, effectivement, une prise en charge va être nécessaire et se faire accompagner dans un entraînement de votre capacité d'imagerie mentale visuelle peut être très bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par entraînement de la capacité d'imagerie mentale visuelle ? Eh bien, on va vous inviter à repenser, à revisualiser votre cauchemar une fois et en fermant les yeux mentalement, vous le revivez à l'état d'éveil et on va vous inviter à changer le scénario de manière positive. Par exemple, si vous rêvez que vous tombez d'une falaise et que vous habituellement vous écrasez dans l'océan, eh bien, on va vous inviter à réimaginer un nouveau scénario où vous tombez d'une falaise mais vous avez un parachute, par exemple. Pareil pour un accident de voiture, un camion arrive devant vous, et bien vous allez éviter de justesse l'accident. Et je vais vous inviter à vous à répéter ce nouveau scénario positif entre 5 et 15 minutes par jour. Il s'avère qu'en faisant cet exercice de répétition, eh bien, vous allez ancrer dans votre mémoire épisodique cette trace, ce nouveau scénario, et ce nouveau scénario aura une plus grande probabilité de surgir au moment du sommeil paradoxal, au moment du cauchemar. Et là, pour le coup, eh bien, ça ne sera plus un cauchemar, mais ça sera un rêve qui est positif. Donc cette technique s'appelle l'IRT et nous allons la tester en France avec un dispositif internet où nous allons accompagner des personnes. Hein, donc c'est un appel à participation des personnes qui souffrent de cauchemars chroniques à faire cet entraînement en ligne, accompagné par des psychologues. Et cette technique eh bien, dure à peu près entre 2 et 3 semaines et on observe des résultats au bout de, ça dépend des personnes, après du nombre de répétitions qu'elles ont faites, mais entre 1 et 4 mois.
Alors ce qui est passionnant, François Lassagne, c'est que le processus de l'IRT ressemble beaucoup au modèle de Tore Nielsen sur le mécanisme du cauchemar lui-même, c'est-à-dire sur cette action du cortex frontal qui introduirait des améliorations dans le scénario qui viendrait de l'amygdale, si j'ai bonne mémoire, et ainsi atténuerait les effets et dans ce cas-là, dans le cas du cauchemar réussi, si vous voulez, aurait finalement aboutirait au même résultat qu'avec les 3 semaines dont nous parle Benjamin Putois de traitement là extérieur.
Ce modèle neurophysiologique de Tore Nielsen est effectivement tout à fait cohérent avec la capacité de l'IRT à améliorer le sommeil des patients souffrant de cauchemars. Parce que effectivement, ce que décrit Tore Nielsen, c'est l'hippocampe comme centre de réécriture mémorielle. L'hippocampe, pour le dire simplement, mélange des souvenirs de peur et des souvenirs anodins. Les doses suffisamment pour que ce nouveau souvenir soit crédible, cohérent, perçu comme tel par le cortex préfrontal médian. Et si c'est le cas, si le cortex préfrontal médian considère que ce scénario est crédible, alors il inhibe l'amygdale, qui est celle qui génère les mémoires de peur. Et le cerveau se retrouve avec une mémoire composite, qui est faite d'éléments perturbants et pénibles, et d'éléments neutres. Et du coup, cette atténuation de la mémoire qui faisait peur, d'une certaine manière, pour le dire encore très simplement, fait du bien. Celui qui a cauchemardé va mieux avec ses souvenirs pénibles. Alors je voudrais souligner quelque chose qui est assez amusant, que Benjamin Putois peut-être complétera, c'est que dans le folklore, on dit souvent que les cauchemars, comme les rêves d'ailleurs, hein, l'interprétation des rêves est quelque chose de très connu, mais les cauchemars interprétés sont connus par exemple pour rapprocher le cauchemar où l'on trouve des serpents, du signe qu'il y aurait une tentation sexuelle mal assumée, ou si l'on perd une dent, cauchemar pénible, ce serait le signe d'une angoisse de perdre son énergie vitale. C'est un folklore. Évidemment, c'est un folklore. Ce n'est pas du tout rationnel ni scientifique. Néanmoins, le fait de demander à un dormeur qui souffre de cauchemar d'interpréter lui-même, et pourquoi pas de mobiliser ses éléments folkloriques dans ce qu'il va raconter de son cauchemar, va jouer ce rôle qu'a expliqué Benjamin Putois de réécriture du cauchemar. On fait un remix de mémoire pénible, et peu importe le chemin qu'on va prendre, le thérapeute va le guider, mais l'interprétation est un moyen, l'interprétation, quitte à mobiliser des éléments folkloriques, est un moyen, pourquoi pas, de faire ce travail-là.
Alors, tout à fait.
Oui, Benjamin Putois, malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Juste une question, est-ce que tout ce travail sur les cauchemars et les rêves ne jette pas une étrange lumière sur ce qui sera notre mémoire? Est-ce que notre cerveau, pendant notre sommeil, n'est pas en train de transformer totalement la mémoire réelle et nos véritables souvenirs en quelque chose qui va devenir ce mélange dont parlait François Lassagne, entre des éléments positifs et négatifs, plus acceptables, mais peut-être assez éloignés de la réalité de ce qui s'est passé lors de la production de ces souvenirs? En quelques mots, Benjamin Putois.
En quelques mots, je répondrai surtout en pensant aux patients. Certains patients qui commencent la technique pensent qu'on va enfouir leur cauchemar ou leur traumatisme, puisqu'on ne va pas les aborder directement, mais on va parler essentiellement du cauchemar et du rêve, et qu'un jour, eh bien, ces traumatismes vont surgir d'une manière ou d'une autre. Il s'avère qu'on a vraiment des fortes raisons de penser qu'il s'agit bel et bien d'une réécriture des mémoires traumatisantes, des mémoires traumatiques. hein, et qu'il n'y a pas de retour de refoulé ou de substitution de symptômes. Il s'agit bel et bien, de travailler sur son mémoire pour en réguler les émotions, les affects négatifs.
En les modifiant, donc, si je comprends bien.
En les modifiant, en les réécrivant directement et pas en faisant une superposition de souvenirs, par exemple.
Très bien.
En tout cas, c'est ce que vise notre étude, qu'on va tester spécifiquement.
Donc c'est noté, on mettra d'ailleurs, si vous nous l'envoyez rapidement, le lien avec peut-être la possibilité de participer à cette étude.
Ah oui, tout à fait. Donc les personnes peuvent se rendre sur le site internet imaginerever.org où ils auront toutes les informations pour pouvoir participer à cette expérience.
Merci beaucoup. Merci à Benjamin Putois, Roger Ripper, Perrine Ruby et François Lassane d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez approfondir, bien entendu, notre sujet d'aujourd'hui en lisant le dossier de Sciences et Vie, notre partenaire pour cette émission qui publie dans son numéro de juillet le dossier donc intitulé « La science des cauchemars », numéro que vous pouvez d'ores et déjà trouver dans les kiosques, n'est-ce pas, François Lassagne ?
Dans les kiosques et sur la plupart des magasins en ligne où l'on peut lire la version numérique de Sciences et Vie.
Très bien, vous trouverez sur notre site les références d'ouvrages, des références d'ouvrages sur les rêves et les cauchemars, dont celui de Roger Ripper, « La résolution des cauchemars » paru en 2012 aux éditions Oniros. À noter également la conférence atelier organisée par le même Roger Ripper près de la basilique de Vézelay les 26 et 27 juillet prochains sur le thème « Rêves et cauchemars » et dont vous pouvez trouver le programme sur le site de l'association Oniros. Sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an et bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. Sciences Publiques, Dany Journeau, Claire Vuillot à Lyon, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie d'Augustin Trapenard pour le Carnet du Libraire. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture et à la semaine prochaine.